Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, une édition spéciale des Informés de France Info. Nous entendrons dans un instant et en direct l'interview d'Emmanuel Macron dans le 20h de France 2. Et nous reviendrons sur ce G7 à rebondissement, le nucléaire iranien, la forêt amazonienne, le face-à-face avec Trump, réaction, commentaire avec nos invités. Saveria Rojek, vous êtes journaliste politique sur Public Sénat avec Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe de France 24. Avec Xavier Couture, on va dire désormais consultant audiovisuel. Et avec vous, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Édition spéciale jusqu'à 21h, donc à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Mais que va-t-on dire Emmanuel Macron aux Français quand il répondra depuis Biarritz? Allez, dans une dizaine de minutes, aux questions d'Anne-Sophie Lapix dans le 20h de France 2. Vous restez avec nous, ce sera en direct également dans les informés. Mais tout d'abord, le chef de l'État a-t-il réussi son coup durant ce G7? Extrait de la conférence de presse avec Trump, et vous réagissez ensuite.
On a sans doute plusieurs points communs, mais l'un tout particulièrement avec le président Trump. Nous n'aimons pas perdre notre temps. Et nous aimons avoir des résultats.
Nous sommes donc en direct du 20h de France 2, l'interview d'Emmanuel Macron avec Anne-Sophie Lapix.
Mais on a eu, comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, une très bonne discussion avec le président Trump quand il est arrivé. On a ensuite eu un dîner ici où on a parlé pendant plus d'une heure de l'Iran, qui est un sujet qui paraît très compliqué, qui paraît très loin. Mais au fond, on a dit, on est tous d'accord sur deux choses. On ne veut pas que les Iraniens puisse avoir la bombe nucléaire. Et on ne veut pas qu'il y ait d'escalade pour créer la guerre. Et c'était très important parce que les Américains sont mis dans une position d'accepter, sous certaines conditions, de négocier. Et donc, ce que j'ai décidé de faire après ce dîner, c'est d'inviter, en le disant au président Trump, le ministre, pour, sur la base d'hypothèses qui sont que des essais que la France fait, de le tester, d'essayer d'avancer. Donc, ce n'est pas un coup de poker, c'est, si je puis dire, des efforts qu'on fait. C'est le rôle de la France qui, voilà, essaie de faire les médiations. Général de Gaulle disait « La diplomatie, c'est d'essayer de tenir ensemble des vitres brisées, parfois. » C'est ce qui les recolle. Donc on a essayé et on a réussi à franchir une étape importante dans ce G7 sur le sujet de la crise iranienne.
C'est la diplomatie, ce sont les discussions engagées par les Français, par vous, qui ont fait évoluer le président iranien, ou ce sont les sanctions américaines imposées?
Sans doute les deux. Sans doute les deux. Je vous disais, c'est très important pour notre pays aussi qu'il n'y ait pas l'arme nucléaire en Iran. C'est aussi très important qu'on n'ait pas de conflit dans la région, parce que quand on a des conflits, ça nourrit un terrorisme qui ensuite nous touche. N'oublions jamais qu'en novembre 2015, les attentats faits en France ont été organisés en Syrie. Ensuite, on n'a pas eu la même stratégie avec le président Trump. Nous, on a dit on reste dans cet accord nucléaire, parce que ça nous donne de la visibilité, ça nous permet d'avoir du contrôle, et puis on va essayer d'avoir plus. Lui, il a dit ça ne me suffit pas, il est sorti, il a mis des sanctions. Ces sanctions, évidemment, ont un impact sur l'Iran. L'Iran est en récession, la population souffre, il y a une pression sur le régime, donc ça fait changer les choses. Mais on est à un point de rupture, si vous voulez. C'est-à-dire que si on en reste là et qu'on laisse les choses aller, les Iraniens continueront progressivement à sortir de ce traité. Et donc ce qu'ils s'apprêtent à faire, et ce qu'ils feront sinon automatiquement, c'est qu'ils vont se remettre à enrichir l'uranium pour essayer d'avoir l'arme nucléaire. Et là, à ce moment-là, on basculerait du mauvais côté de la pression, parce que ça deviendrait l'escalade. S'ils font ça, les Américains à coup sûr répliqueront, d'autres puissances de la région qui sont inquiètes, Israël, l'Arabie Saoudite, peuvent répliquer et on peut avoir un embrasement. Et donc, c'est pour ça que je passais beaucoup de temps ces dernières semaines en tant que président du G7, et puis parce que c'est aussi le rôle de la France, on l'a signé, on est membre permanent du Conseil de sécurité, à essayer de convaincre de part et d'autre de trouver un accord, parce que je ne veux pas qu'il y ait cette escalade. Et donc la France, on teste des idées de part et d'autre et on voit ce qui peut marcher. Et avec nos partenaires britanniques, allemands, parce qu'on a beaucoup travaillé avec la chancelière Merkel et le Premier ministre Johnson, d'essayer de construire un accord. On n'y est pas.
Oui.
Mais ce qu'on a réussi à obtenir durant ce G7 sur ce sujet, c'est un, on a baissé la pression. Très important. Deux, il y a eu cette ouverture que vous avez notée. Chacun des présidents a dit « je suis prêt à rencontrer l'autre sous certaines conditions ». Et puis trois, on a eu des discussions très techniques, très confidentielles, avec les Iraniens. avec les Américains et les Britanniques et les Allemands. Et on voit progressivement quelles sont les conditions qui pourraient être remplies dans les prochaines semaines. Donc maintenant, il va y avoir un travail très technique, très diplomatique. Et il faut préserver tout ça. C'est fragile, donc il faut qu'on fasse très attention.
Il y a des progrès, on les constate, on s'en réjouit. Il n'y a pas d'accord, vous le dites. Vous avez dit au début du sommet que vous vouliez un sommet utile. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se contente de petits pas?
Alors, qu'est-ce que c'est un sommet utile? D'abord, le principe même d'avoir des discussions ouvertes entre les 7 principaux pays industrialisés qui partagent des valeurs démocratiques, c'est utile. Ces sommets ne fonctionnent pas lorsqu'on n'a pas de vraies discussions, lorsqu'on annonce des notes préparées par d'autres, lorsqu'on évite les problèmes. Là, je crois pouvoir dire qu'on a parlé de tout avec beaucoup de liberté. On s'est parfois mis d'accord, d'autres fois non, mais ça, ça a une utilité. Parce que ça évite qu'on parte dans des chemins divers.
Donc on doit quand même réduire nos ambitions par rapport à... On ne change pas le monde.
Mais le monde n'a jamais été changé, ni lors d'un G7, ni dans un sommet. Vous savez, le monde est changé dans un sommet quand on est en guerre et qu'on fait la paix dans ce sommet. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est parfois d'éviter le pire et ensuite de construire pas à pas le meilleur. Donc, qu'est-ce qui est utile? 1, cet échange. 2, ce qu'on a obtenu sur l'Iran. C'est très utile pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Sur des crises ensuite comme la Libye qui nous touche, parce que c'est le sujet des migrations, de la stabilité de l'Afrique, là aussi, on a réussi avec nos amis africains à se mettre d'accord sur 2 réunions importantes à venir et en tout cas d'arrêter de se battre les uns des autres par procuration sur le territoire de la Libye. Sur le commerce, vous l'avez très bien rappelé. Dans votre reportage, il y avait beaucoup de tensions. On a rappelé 2 choses très importantes. On se met d'accord sur une taxe internationale, c'est très compliqué. Mais on va le faire. Et sur le sujet des équilibres commerciaux, on essaie d'enlever un peu le conflit. L'Amazonie, sommet utile.
On voit pas le progrès sur les États-Unis et la Chine. On voit pas parce que les tensions sont arrivées à un niveau extrême juste avant le sommet, avec de nouvelles taxes promises par Donald Trump pour le mois de décembre sur certaines importations chinoises, avec notamment cet appel aux entreprises américaines à quitter le territoire chinois. On est allé très loin. Il n'y a pas eu de retour en arrière. On a juste dit on continue à dialoguer, mais vraiment rien de concret.
Non, mais ça c'est normal parce que un dialogue, ça se fait à 2, et il y avait une des parties qui n'était pas là aujourd'hui. C'est pas le but du G7 de faire cela. Le président Trump a expliqué ce qu'il voulait faire avec la Chine. Donc ça, c'est normal. Je note quand même qu'il y a eu des messages plutôt positifs qui sont venus des Chinois ce matin. Non, ce qu'on a fait sur le commerce, qui à mes yeux est, même si c'est moins spectaculaire, très important, c'est qu'on s'est mis d'accord, y compris avec les États-Unis d'Amérique. C'est le petit texte qu'on a sorti. Pour dire, les problèmes qu'on a en matière commerciale, on doit les gérer ensemble, en changeant notre organisation mondiale du commerce. Et ça, c'est un vrai changement parce que le président Trump, il est parti du principe que les États-Unis d'Amérique avaient des déficits importants sur le plan commercial. C'est vrai.
Ils le sont encore plus d'ailleurs aujourd'hui.
Donc ça ne se règle pas simplement avec des tarifs, mais c'est vrai. Et lui a dit, moi je vais le régler en ayant des discussions bilatérales, c'est-à-dire en parlant avec la Chine, en montant mes tarifs, en durcissant les choses, en parlant avec l'Europe. C'est une approche, je la respecte, mais je ne suis pas sûr qu'elle produise beaucoup d'effets. Surtout, elle peut créer beaucoup de tensions inutiles et enlever de la croissance. Et ça, c'est pas bon pour nous. Donc, ce qu'on a acté ensemble, c'est qu'on a dit, on a compris le problème et on le partage. C'est notre problème aussi. Le commerce mondial, il n'a pas assez respecté la propriété intellectuelle. On a laissé trop la contrefaçon se faire. Ça détruit des emplois dans nos pays. On a laissé parfois de la concurrence déloyale se faire. C'est-à-dire des entreprises concurrencer les nôtres, alors qu'elles n'avaient pas les mêmes conditions, qu'elles étaient parfois aidées par leurs États, ce qu'on fait plus nous. Bon, c'est pas normal. Et donc toutes ces choses qui ont parfois défavorisé les États-Unis, comme nous, il faut qu'on puisse les régler beaucoup plus vite, qu'on modernise nos règles. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et donc là, nos ministres, dans les prochains mois, vont avoir ce travail. Ça veut dire qu'on décide de le faire ensemble. C'est ça ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et c'est mieux que de décider de régler ces problèmes en faisant des confrontations l'un contre l'autre.
Est-ce que vous pensez qu'on va éviter une taxation de nos vins? Parce qu'il n'était pas clair alors, de la conférence de presse Donald Trump.
Il veut toujours garder, si je puis dire, les choses. Il a eu un message très positif et amical pour le vin français en faisant référence à la Première Dame.
Oui. Et ça lui a évité de répondre
bien sûr,
à la question.
Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas d'accord, il ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Bon, d'abord, c'est compliqué de lier la taxation, le sujet de la taxation du numérique et le sujet d'un tarif. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, ça a été une menace. Moi, je ne l'ai pas surinterprété parce qu'il faut en voir l'efficacité. Vous savez, j'ai pris un exemple très simple. Il y a 2 ans maintenant, je crois, il a décidé de taxer le bois canadien. Parce que les maisons en bois aux États-Unis étaient faites avec du bois canadien et pas américain. Il a passé une taxe. Elle n'a pas diminué d'un centime les ventes du bois canadien, mais elle a augmenté le prix pour les consommateurs. Parce que simplement, les Américains ne savaient pas produire le même bois pour ces constructions.
Voilà, les producteurs de vin français étaient quand même inquiets.
Bien sûr, ils sont inquiets à juste titre, mais je regarde quand même les ventes, leur dynamique. Et je veux dire que tous ceux qui exportent, s'il y avait une taxe qui était mise, je ne suis pas sûr que ça les coupe du marché.
C'est surtout pas les plus chers, hein, mais peut-être pour les moins chers, ça risque d'être
mais compliqué. Même, regardez la dynamique sur des... Pardon, on rentre dans le détail, mais sur des vins comme le rosé. J'étais dans le sud de la France. Ils sont plus 30% chaque année. Donc les gens sont prêts, parce que c'est un très bon vin. Donc il faut faire attention, les tarifs, ça ne veut pas dire qu'on interdit le vin. C'est pas pareil.
Bien sûr.
Et il ne faut pas céder à toutes les menaces. On a pacifié les choses, je pense que ce n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver cet accord sur une taxation internationale. Ça vous montre que là, on a fait une avancée. Maintenant, on doit la mettre en œuvre concrètement. Tout ça est très compliqué et je conçois que ça puisse paraître insuffisant ou juste des petits pas.
Parce qu'en fait, vous êtes reporté sur un travail déjà en cours de l'OCDE.
Non,
pour
oui, mais on l'a lancé. Jusqu'à présent, on ne l'avait jamais accordé entre nous à 7. En particulier, plusieurs États autour de la table s'étaient opposés à ce travail. Donc c'est pour ça que ça, c'est un vrai changement. Mais le monde dans lequel on vit est en pleine bascule, les choses changent très vite et très brutalement. Le numérique se développe, il y a 10 ans, on n'en était pas là. Et donc ça crée des changements très profonds pour nos économies. Ça détruit énormément d'emplois, ça en crée d'autres, et ça crée des déséquilibres. C'est normal qu'on mette du temps à s'accorder au niveau international. Mais si on ne le fait pas, on accepte que des grandes compagnies américaines puissent quasiment faire le travail d'hôtel, sans payer le moindre impôt, et à côté de ça, que des gens qui ont leur hôtel, qui payent toutes les taxes, soit concurrencé par eux.
Vous avez évoqué Airbnb.
Bon, voilà, je ne citais pas de nom. Mais oui. Donc ça vous montre, ça a été un changement très rapide. On doit réussir, et c'est tout l'intérêt de ces réunions, à se mettre d'accord pour apporter une réponse ensemble, reconstruire sur le plan international. Et c'est pareil sur le climat, la biodiversité. Le monde n'a jamais changé aussi vite. Notre organisation économique, sociale, est en train de basculer complètement. Et donc, nous devons décider pour nos pays, mais comme notre monde est ouvert et interdépendant, on doit aussi se mettre d'accord ensemble. Et sur ce sujet-là, il y a eu une avancée utile aujourd'hui.
Il faut espérer maintenant que Donald Trump ne balaye pas tous vos efforts d'un tweet en rentrant chez lui. Ça lui est déjà arrivé.
Vous avez raison, il faut toujours avoir cette humilité. Je crois que ce qui a été différent, ce que j'ai voulu faire de très différent d'habitude, c'est d'abord que j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand il y avait des malentendus. Il l'a évoqué lui-même. Et c'est qu'ensuite, je n'ai pas fait une déclaration de 15 pages que personne n'a lue et qui a été écrite par d'autres que nous et qui fait qu'on peut toujours, les journalistes peuvent après, à juste titre, toujours dire à cet endroit-là, donc ils ont dit ça et quelqu'un se réveille en disant « mais non, moi je ne suis pas d'accord ».
Il n'y avait qu'une page, mais enfin vous avez mis du temps à la détailler quand même.
Mais oui,
vous êtes rentré dans...
parce qu'on a écrit une page sur tout ce sur quoi on était d'accord. Tout ce qu'on vient de dire, c'est dans cette page. Et ça c'est très important parce qu'il l'a écrite avec nous, lue. Et on a fait la conférence de presse ensemble.
J'évoquais un éventuel tweet de Donald Trump. Les présidents s'expriment de plus en plus par tweet. Et ce n'est pas toujours une bonne idée. On a atteint un niveau inédit de violence et d'insultes avec Jair Bolsonaro. Est-ce que ça paraît grave? Est-ce que les relations entre la France et la Chine vont devenir extrêmement difficiles? Quel est l'avenir de ces relations?
La France et le Brésil.
Le Brésil, pardon.
Alors, permettez-moi de souligner que je ne prends pas part à ces discussions, parce qu'on pourrait avoir le sentiment, quand les choses sont parfois présentées, que ce serait un dialogue entre le président Bolsonaro et moi. Aucunement. Je considère que le mandat que m'ont donné les Français, c'est de les représenter, de défendre notre pays, d'essayer de faire au mieux pour qu'ils progressent et de porter la voix de la France dans le monde. Je me dois d'être respectueux à l'égard de mes homologues, quels qu'ils soient. Et donc jamais je n'ai tenu un propos qui était irrévérencieux à l'égard d'un de mes homologues. Il n'en est pas de même de la part du président Bolsonaro. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai évidemment condamné et regretté. On ne peut pas l'accepter. Et donc, moi, je distingue toujours les peuples des dirigeants. Le peuple brésilien est un grand peuple. Le Brésil est un grand pays. L'attitude qu'il a eue, que vous avez rappelée, à l'égard de mon épouse, l'attitude qu'il a eue à l'égard du ministre des Affaires étrangères il y a quelques semaines, ne sont pas dignes.
En refusant un rendez-vous, enfin, en prétextant.
Ne sont simplement pas dignes d'un dirigeant. Ferais-je cela, les Français auraient légitimement honte. Et donc, je pense au peuple brésilien aujourd'hui. Je pense qu'il mérite d'autres comportements et j'espère qu'on arrivera à ces autres comportements.
Vous, ce que vous avez tweeté, c'était « Notre maison brûle littéralement » quelques heures avant le sommet du G7 au sujet des incendies donc en Amazonie. Est-ce que Jair Bolsonaro est responsable de ces incendies parce qu'il encourage les défrichages?
Pas du tout. Ce serait faux de dire que c'est lui qui est responsable. Mais... Et donc c'est pour ça que c'est... D'ailleurs, je ne l'ai pas visé lui quand j'ai fait ce message. qu'est-ce que c'est que la forêt amazonienne? C'est l'essence, c'est la plus grande partie de ce qu'on appelle la forêt primaire sur la planète. C'est-à-dire vraiment un type de forêt très dense avec des propriétés de biodiversité uniques. C'est le poumon, quand on dit c'est le poumon de la Terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des arbres qui absorbent le CO2, qui dégagent de l'oxygène. Et ça représente 15% du CO2 absorbé dans la planète. Ça veut dire que, alors qu'on essaie de réduire nos émissions, la forêt amazonienne, elle nous aide. C'est une diversité biologique inouïe. Quand elle brûle, non seulement elle ne peut plus avoir cette fonction, mais en plus en brûlant, elle libère tout le CO2 qu'elle avait capturé. Donc c'est la double peine. Il y a 9 pays qui sont en Amazonie. 9 pays, dont la France.
Parce que nous avons... Ça ne brûle pas en France.
Non, ça ne brûle pas, mais nous sommes concernés, dont la Guyane. Mmh. La question qui nous est tous posée, c'est est-ce qu'on doit dire ça ne concerne que chaque pays ou ça nous concerne tous? Eh bien, les deux à la fois. Et donc chaque pays est concerné parce que c'est d'abord sa souveraineté territoriale. Mais compte tenu de l'enjeu et de ce que représente la forêt amazonienne, nous sommes tous concernés parce que c'est un déséquilibre terrible pour la planète. Alors derrière, qu'est-ce qu'on peut reprocher au président Bolsonaro? La première chose, il a été très clair dans tous ses messages et soutenu des projets économiques qui sont contraires à l'intérêt de la forêt amazonienne. Ensuite,
le défrichage massif de la forêt amazonienne. Ensuite, pour les agriculteurs, pour des cultures comme le soja. Et nous importons combien? 3,5 millions de tonnes.
Vous avez totalement raison.
De soja produit au Brésil. Je crois que l'Europe importe.
L'Europe en importe le premier acheteur. Beaucoup. Voilà. Je vais d'ailleurs répondre à ce point.
On a une part de responsabilité.
On a une part de complicité. Mais
la complicité, c'est de la responsabilité.
Non, mais
aussi.
De complicité passée. Je vais vous expliquer très précisément pourquoi pour le soja, parce que tout se tient, tout ça est compliqué, il faut l'expliquer point à point. Mais là, ce qu'il est en train de faire ou de vouloir faire, ce qui est grave, c'est que d'abord, je regarde les choses d'une année sur l'autre, plus 90% à peu près d'augmentation de feu. Donc quelque chose s'est libéré, ça ne va pas. Ensuite, il n'a pas été clair sur la reforestation. Et là-dessus, ça n'est pas que sa responsabilité, c'est aussi compte tenu de cet enjeu, la nôtre. Et c'est là où on a envoyé un message très clair en disant « on respecte votre souveraineté, c'est de votre pays, c'est le Brésil, et là-dessus je vais être très clair, je n'ai jamais été ambigu ». Mais attention, ce sujet de la forêt amazonienne est celui de la planète entière, et donc on peut vous aider à reforester, on peut trouver les moyens pour votre développement économique qui respecte ces équilibres, mais on ne peut pas vous laisser tout détruire. C'est pour ça que ce matin, nous avons lancé, et ça c'est une vraie avancée, liée à ce G7 et qui a été permise par tout le monde, en particulier le président chilien que j'avais invité parce qu'il est très engagé sur le climat, on a lancé une initiative forte sur l'Amazonie. En faisant quoi? On mobilise 20 millions d'euros pour aider tous les États qui sont en train d'avoir la forêt qui brûle. Parce qu'il n'y a pas qu'au Brésil, hein. Oui, il y a plusieurs autres États. Et la deuxième chose, on met en place au moins 30 millions, et ça on va le finaliser dans quelques semaines à New York quand on sera à l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour aider à faire la reforestation, à développer l'agroécologie, c'est-à-dire tout ce qui permet de créer de l'activité économique en étant respectueux de la planète. Avec les gouvernements, mais aussi avec les régions et avec les peuples autochtones.
Ce que vous avez fait aussi.
Et donc ça, c'est très important, c'est une vraie avancée et ça montre que quand on est là ensemble, on sait se mobiliser, on met de l'argent, on avance. Vous avez posé une très bonne question sur le soja. Et donc je vais vous expliquer là-dessus comment je compte avancer. Le soja, on en a besoin aujourd'hui en Europe parce que ça importe en particulier de la protéine qu'on utilise pour nourrir les animaux. Bien souvent, ou faire d'autres productions. Et nous n'en avons pas. C'est le fruit d'un vieil équilibre qui a été conclu dans les années 60 entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et nous avons à ce moment-là accepté une dépendance en termes de protéines. Et moi, je considère que c'est un très mauvais choix, et surtout, c'est mauvais parce que pour nos grands équilibres, ça fait faire du trajet à des choses qu'on pourrait produire sur notre territoire. Et ensuite, sur le plan, je suis très attaché, comme vous le savez, à la souveraineté européenne, c'est-à-dire que l'Europe puisse se débrouiller aussi par elle-même, avoir des partenaires mais pas être trop dépendante. Et donc c'est ce que j'ai annoncé il y a quelques mois et qui est au cœur moi du projet européen auquel je crois, c'est qu'on doit recréer ce qu'on appelle la souveraineté protéinique de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe, elle doit être capable de reproduire ses propres protéines pour elle-même, pour consommer, comme pour les éleveurs.
Mais alors justement, le Mercosur, l'accord de libre-échange, vous avez finalement décidé de ne plus donner votre accord au Mercosur. Mais il y a 2 mois, vous vouliez encore le signer. Alors, est-ce que c'est juste un geste de pression sur Jair Bolsonaro ou est-ce que vous êtes convaincu, est-ce que vous avez changé, comme vous l'avez dit, et est-ce que vous estimez que cet accord est mauvais pour la nature, pour le réchauffement climatique?
Alors, je vais vous dire très, très clairement. Le Mercosur, d'abord, nous avons, comme vous l'avez très bien dit, des échanges quotidiens avec tous les pays qui sont dans ce qu'on appelle le Mercosur. Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, etc. Tous les jours, on importe, on exporte. Donc, ne donnons pas le sentiment à nos concitoyens que d'un seul coup, on va ouvrir toutes les portes. C'est pas vrai. Tous les jours, on a des échanges avec ces pays. C'est un accord dans lequel on disait on va faciliter les échanges dans certains domaines pour pouvoir créer plus de croissance des deux côtés, et puis en mettant des quotas. Et donc, moi, pendant des mois, j'ai été un peu dur dans la négociation avec l'Europe. La France a été la plus dure, c'est souvent le cas, pour protéger notre agriculture et protéger le climat. Et donc, moi, je disais, je ne veux pas sur certains, sur la viande, sur le poulet, sur le sucre, parce que c'est un vrai sujet avec cette région et pour nous, qu'on importe trop, avec trop de facilité, parce que sinon, ça va déséquilibrer notre agriculture. On a donc mis des quotas, et puis on a mis ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde. Ça veut dire, si d'un seul coup, ça déséquilibre notre agriculture, on n'applique plus.
Donc vous y croyez encore?
Attendez, je vous explique déjà ce qui a été fait, parce qu'on l'a caricaturé. On ne fait pas n'importe quoi. Ensuite, on a dit, on met aussi en place des règles sur le plan des contrôles et de l'écologie. On m'a dit, donc moi j'avais mis toutes ces conditions inédites. En particulier, j'ai dit, je veux que l'accord de Paris soit respecté par tous ceux qui signent. Parce que je savais que M. Bolsonaro avait fait campagne contre l'accord de Paris.
Oui.
Quand nous étions en juillet au Japon, on nous dit, déclaration politique, pour ça qu'il faut toujours être prudent et voir ce qu'il y a derrière, c'est bon, on est tous d'accord, on y va. Moi j'ai dit à ce moment-là, je suis d'accord, puisque tout ce que j'ai demandé est rempli, tout ce que la France voulait. Et j'ai dit, j'attends de voir le texte, et j'attends de voir que tout soit respecté. Ensuite, il y a deux choses qui sont passées. Nous avons eu le texte. Et il doit maintenant être travaillé, parce qu'il n'est pas suffisant. Je l'ai dit, le texte du Mercosur ne m'apporte pas les garanties qui correspondent à ce que je voulais.
Donc il n'est pas totalement enterré, le Mercosur, dans votre esprit?
Il n'est pas totalement
pas caduc.
Enterré. Non, c'est les choses, il faut réagir de manière responsable. Je dis un, je l'ai dit d'ailleurs dès le mois de juillet, je n'ai jamais donné mon accord définitif parce que je n'avais pas de texte définitif.
Donc, pas tant changé que cela, c'est ça que je veux dire.
Si, parce que je vais vous donner la
deuxième raison.
Nicolas
Hulot était ravi que vous écartiez le Mercosur quand vous l'avez annoncé en représailles.
Mais il a raison, parce que je vais apporter ma deuxième réponse. Mais je vous explique ce que c'est, parce que parfois on parle de choses, on ne sait plus ce dont on parle. Le premier point, c'est que j'ai toujours été prudent en disant « moi, je n'ai pas le détail ». Quand on parle de l'accord qu'on a fait avec les Canadiens, ce qu'on appelle le CETA, on a beaucoup amélioré l'accord. On est rentré dans le détail avant de ratifier. Là, on est très loin. On n'a même pas signé officiellement et enclenché la procédure. Donc, un, j'ai jamais donné mon accord complet. Je n'étais pas à l'aise avec tout. Deux, j'ai toujours dit un accord, c'est un tout. Et la condition que j'ai toujours réaffirmée, c'est qu'on respecte nos engagements climatiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juillet? Monsieur Bolsonaro a renvoyé les scientifiques qui faisait des expertises indépendantes sur le sujet d'ailleurs de la forêt amazonienne. Il a envoyé plusieurs messages disant clairement qu'il sortirait de toute façon de fait de ses engagements. Et donc, je le dis de manière très claire, c'est pas moi qui ai changé, c'est simplement lui qui n'a pas respecté sa parole. Et je me dois, au nom de la France, de m'assurer que les intérêts, nos intérêts, nos principes, nos valeurs, ce pour quoi on s'engage, soient défendus. Donc, en l'état, je ne signerai pas le Mercosur.
Il y a un échec dans ce sommet.
Voilà, donc le Mercosur, j'espère que c'est clair, c'est des sujets compliqués.
C'est clair, il y a un échec dans ce sommet, c'est le Brexit. Boris Johnson l'a dit lui-même en partant, il y a un désaccord profond entre les Européens et la Grande-Bretagne. Il est tombé dans les bras de Donald Trump qui lui promet un accord commercial formidable, mirifique. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce Brexit dur qui s'annonce? On a l'impression d'avoir fait un pas de plus vers ce Brexit
d'abord,
dur, qui serait une catastrophe aussi pour l'économie française. Pas uniquement
pour les Britanniques, avant tout.
Oui, et pour nous aussi. Notre excédent commercial le plus important, c'est avec la Grande-Bretagne.
Je vous trouve sur ce sujet un peu sévère, parce que le Brexit n'a jamais été à l'ordre du jour de ce sommet.
Wow. Pour une raison simple. Vous en avez parlé avec Boris Johnson?
Non, j'en ai parlé quand Boris Johnson est venu à Paris, jeudi.
Et pas depuis?
Pas du tout ici.
Le Brexit n'a pas du tout été évoqué lors du
Je vous promets, il n'a pas été évoqué une seule seconde entre
c'est
nous
étonnant.
Pour en parler.
Non. C'est pas une erreur?
Mais non, parce qu'il faut savoir aussi, il faut être respectueux avec chacun et savoir de quoi on parle. L'Union européenne, c'est aujourd'hui 28 États membres. Le G7, ce sont quelques puissances industrielles. Est-ce que vous pensez que nos partenaires européens seraient contents que quelques Européens autour de la table, parce que ce sont les plus gros, négocient en leur nom? Ça ne marche pas comme ça, l'Union européenne. Et heureusement, c'est notre force. Donc, comment on gère le Brexit au niveau de l'Union européenne? On a défini à 27... un mandat qu'on a donné à un représentant qui est Michel Barnier, qui agit au nom de la Commission. Et nous jouons ensemble, nous décidons ensemble. Donc il était normal et de bonne méthode qu'on ne l'évoque pas sous ce format-là. Ça ne concerne pas ni le Canada ni le Japon. On ne va pas laver notre linge qu'on devrait laver en famille devant les autres. Et puis ça nous concerne nous. Ensuite, qu'est-ce que c'est le Brexit là aussi? C'est le peuple britannique qui a décidé souverainement de quitter l'Union européenne. Ne l'oubliez jamais, ce n'est pas nous qui les chassons. La deuxième chose, c'est le gouvernement britannique, avec un mandat du peuple, qui pendant 2 ans discute d'un accord avec l'Union européenne et qui se met d'accord. Et c'est maintenant un gouvernement britannique qui n'arrive pas à ratifier cet accord au Parlement. Donc aujourd'hui, le Brexit, c'est une crise politique britannique. Nous, on est au clair.
Mais avec de lourdes conséquences donc, pour les Européens et pour la France.
Il fait de la politique, il fait peut-être du poker, il est intelligent, il arrive. Moi, j'ai eu une très bonne discussion avec lui. Il veut simplifier des choses sur la frontière irlandaise. Tout ça est très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer dans tous les détails ce soir
et qu'on ait le temps. Je ne crois pas le temps ce soir.
Mais c'est très simple. Nous, on veut un accord qui permette de protéger l'Europe. Si on n'a pas un accord qui nous protège, et si on fait ce que M. Johnson veut aujourd'hui, ça veut dire que demain, par la Grande-Bretagne, n'importe quel bien peut arriver qui ne respecte plus les règles européennes. Et donc, si j'accepte ce que M. Johnson demande, eh bien, demain, je viendrai vous voir et puis vous me direz comment ça se fait que nous, en Europe, on interdise des OGM, que parce que la Grande-Bretagne les autorise, ça rentre par la Grande-Bretagne et puis il n'y a plus de frontières. C'est ça ce qu'il veut. Ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, parce que je veux qu'on protège les consommateurs, les citoyens et qu'on soit un vrai marché. Donc, il doit accepter le terme de l'accord. Après, moi, je pense que nous, on doit tous être intelligents. Si c'est des modifications techniques qui ne changent pas cet accord, c'est à Michel Barnier, avec lui, de le discuter. C'est ce que je lui ai dit. Je souhaite pour ma part qu'on trouve un accord. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, ce sera une sortie sans accord. C'est ce que vous appelez le no deal ou le Brexit dur.
Ouais.
Une sortie sans accord, on y est prêt. Elle sera dure, c'est pas bon, c'est pas ce que je souhaite.
Prêt, mais c'est ce qu'on ne souhaite pas.
Non,
c'est ce que...
mais attendez,
oui.
À la fin des fins, ceux qui auront toujours la possibilité de l'éviter, ce seront les Britanniques. Ils peuvent retirer ce projet. Donc nous, on doit défendre nos intérêts. On ne faut pas tout céder parce qu'on aurait peur de cela. Donc ce qu'on a fait... On a passé des lois, on s'est préparé, on a rembauché des douaniers, on a embauché des vétérinaires pour faire les contrôles s'ils devaient être faits. On accompagnera, on sera aux côtés de nos pêcheurs pour les défendre et les compenser. Il faut se préparer au pire. C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement. Un travail a été fait et on sera aux côtés des régions, des professions si ça devait arriver. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, mais ce tout, ça ne peut pas être faible avec les Britanniques,
vous avez
contre
également,
nos intérêts.
Vous avez également reçu Vladimir Poutine avant le G7, lorsque vous l'avez reçu au fort de Brégançon, donc il y a quelques jours.
Il y a une semaine.
Il y a une semaine, exactement. Il a évoqué la gestion des manifestations des Gilets jaunes. Il a expliqué en gros que lui ne voulait pas ça dans son pays. Et vous avez ensuite, vous-même, évoqué des blessures inacceptables lors des manifestations des Gilets jaunes, lors d'un entretien à la presse. Près de 2500 blessés côté manifestants, 1750 du côté des forces de l'ordre, 24 éborgnés parmi les manifestants, 5 ont eu la main arrachée. Inacceptable, ça signifie que vous reconnaissez un usage inacceptable de la force. Est-ce que le maintien de l'ordre a été mal géré, déficient?
Il faut d'abord se rappeler ce que nous avons vécu. Une violence inédite et qui a sidéré, qui nous a sidérés, nous tous, qui a parfois sidéré le monde entier. Ce qui n'était pas bon non plus pour notre image, mais c'est ça ce qu'on a vécu. C'est-à-dire on a vécu des scènes d'une violence extrême à l'égard des forces de l'ordre, à l'égard parfois de citoyens, de journalistes, à l'égard de commerce, à l'égard de symboles de la République et de notre pays, l'Arc de Triomphe, en décembre 2018. Et je le dis avec d'abord beaucoup de clarté, parce que c'est l'essentiel et le cœur. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'ordre public. L'ordre public, ça n'est pas l'arbitraire. C'est l'ordre qui protège la liberté de chacun.
Mais qu'avez-vous voulu dire avec blessure inacceptable?
Je vais y répondre. Mais je dis
parce
ça,
que ça faisait 8 mois que défenseur des droits vous demandait de réagir là-dessus, de changer.
La première chose inacceptable, c'est la violence. Et donc, il y a eu tout un travail qui a consisté d'ailleurs à changer ce qu'on appelle la doctrine de maintien de l'ordre, la manière de faire le maintien de l'ordre, en particulier à Paris, qui a fait qu'on a été plus efficace pour contenir tout cela. Ce qu'on demande avant tout au gouvernement, et c'est pour ça qu'il y a eu un très gros travail du ministre de l'Intérieur, du secrétaire d'État auprès de lui, de l'ensemble de ses équipes, du préfet de police, du Premier ministre qui s'est fortement engagé sur ce sujet. Ce que demandent avant tout nos concitoyens, c'est qu'il n'y ait pas de désordre. Donc ce qui a été inacceptable avant tout, la première, la plus inacceptable, c'est la violence des manifestants, des black blocs, de tous ceux qui, au fond, ont travesti ce qui était ce mouvement.
Vous comprenez bien que je vous parle des blessures inacceptables mais que vous avez vous-même évoquées, parce que c'est nouveau, c'est un élément nouveau.
J'y reviens, mais je me permets, parce que la vie de notre pays, c'est un ensemble de choses, je ne veux pas faire de caricature. Et donc, n'oubliez pas que pendant tous ces mois, nos forces de l'ordre ont fait un travail remarquable qui était demandé. On nous a parfois reproché de ne pas le faire assez fort, mais il est à noter qu'aucun pays n'a eu à vivre de tels moments de violence et que les conséquences sont beaucoup plus limitées que ce qu'on a pu vivre dans d'autres cas.
Vous dites qu'on vous a reproché de ne pas avoir tapé assez fort, on vous a reproché aussi d'avoir tapé trop fort, notamment en envoyant des forces de l'ordre qui n'étaient pas assez formées au maintien de l'ordre et qui usaient trop facilement des fameux lanceurs de balles.
J'y viens. Il était nécessaire et il n'était pas possible pour le gouvernement. Je crois vraiment, je l'ai regardé de près et je vous demande de me faire confiance parce que je l'ai regardé de là où je suis aussi en étant le garant. Chacun, et en tant que président de la République, ce qu'on a vécu est quelque chose qui m'a profondément blessé, heurté. Parce que la police française, nos forces de l'ordre ne sont pas là pour que ces scènes se passent. Et les policiers ne s'engagent pas dans la police pour avoir à vivre ce qu'ils ont vécu. Et en effet, parfois, à devoir tirer sur des gens très violents, parce qu'ils sont violents avec du LBD. Et parfois d'ailleurs, quand il y a des erreurs, et je vais revenir sur ce point, de le faire sur des gens qui ne l'étaient pas. Mais je me dois d'abord de dire ce qu'est l'ordre public et le maintien de l'ordre. Et tout au long de cette période, la violence était telle qu'il n'était pas possible de d'un seul coup dire « on arrête les LBD, on désarme ». Parce que dans quelle situation nous serions-nous mis ? La celle peut-être de ne plus pouvoir tenir telle préfecture qu'on voulait brûler. Moi j'ai été dans la préfecture au Puy-en-Velay. J'ai vu des agents qui ont failli mourir par la folie collective qui à un moment s'est installée. Donc c'était cela, le moment du pays où on en était. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu. Il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. Le pire a été évité grâce à leur professionnalisme.
Inacceptable, mais pas irréparable.
Je veux dire par là qu'il y a le cas très précis du jeune Steve à Nantes, qui est aujourd'hui dans la main de la justice. Je veux que la justice fasse son travail en paix, en sérénité.
C'est noyé
et en toute indépendance.
Lors de la fête de la musique, après une intervention des forces de l'ordre.
Dans une fête dont on peut interroger à la fois les autorisations, le lieu et après une intervention des forces de l'ordre. Donc tout ça est compliqué, je ne veux pas le résumer à une seule responsabilité, surtout c'est dans la main de la justice. Mais tout au long de cette période, il n'y a pas eu de mort à déplorer. Il y a une dame, et l'enquête là aussi est en cours, à Marseille, qui était dans un étage, qui est une mort suspecte. Mais donc je veux vous remettre ça en place parce que...
Ça, je crois que c'est bien remis en perspective.
Oui, mais c'est essentiel. Et à côté de ça, il y a tous les blessés que vous avez rappelés. Blessés du côté de la police, blessés du côté des manifestants. Et bien sûr, ces blessures sont inacceptables. Et donc, ce que nous devons faire, c'est premièrement mener toutes les enquêtes administratives. Elles ont été lancées à chaque fois par le ministre pour pouvoir regarder ce qui a été fait, si ça a été fait en bonne et due forme. Ça, c'est administratif. Et quand des mesures doivent être prises, des sanctions, qu'elles le soient. Ensuite, c'est que tout ce qui doit être judiciarisé le soit. Ni vous, ni moi ne pouvons savoir si la personne qui a été blessée était dans une situation où elle s'est mise elle-même et où elle a attenté à la sécurité d'un policier, où elle l'a mis dans une situation qui l'a conduit à ça. Néanmoins, je souhaite, moi, qu'on entame une réflexion profonde sur la manière qu'on a de s'organiser. Parce qu'on ne peut pas rester dans ces situations-là. Et donc, je souhaite qu'on entame un travail, c'est ce que j'ai demandé au gouvernement, où on puisse éviter de manière durable ces situations. Parce qu'on ne peut pas accepter, au sens propre du terme, quand on est président de la République, citoyen français, de voir multiplier ces scènes. Et donc, il faut que le calme revienne. Nous sommes un pays où il y a la liberté de manifester, la liberté d'opinion, de choix, de critique, elle est permanente. Et où pour qu'elle se maintienne, on ne doit pas accepter la grande violence. Donc je souhaite, moi, qu'on fasse plusieurs choses. Qu'on ait une réflexion collective et un travail pour que on éradique progressivement la grande violence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, avec ces groupes qu'on appelle les Black Blocs, qui souvent étaient la raison de ça, qui s'infiltrent et qui font le pire, qui provoquent, qu'on arrive à trouver une solution durable, moi je ne l'ai pas dans ma poche, mais qu'on lance cette réflexion. Et ensuite, qu'on regarde comment changer notre manière d'assurer la sécurité pour réduire très fortement le nombre de blessés qu'on fait dans ces cas-là.
La rentrée sociale sera marquée par des manifestations contre la réforme des retraites. Il y en a trois déjà qui sont prévues au mois de septembre. La mauvaise surprise de la réforme, c'est l'âge d'équilibre, l'âge pivot, les 64 ans. C'est l'âge auquel on pourra toucher pleinement sa retraite. Vous aviez promis le maintien de l'âge de départ légal à 62 ans. Ici, on dit qu'il y a Pibal sous caillou ou Anguille sous roche, c'est à peu près la même chose.
Régional.
Voilà, exactement. Est-ce que c'est un recul de l'âge de départ à la retraite qui ne dit pas son nom ?
Non. Alors, d'abord, en méthode, rien n'est décidé. Rien. Il y a un travail remarquable qui a été fait par M. Delevoye.
Quand vous dites rien n'est décidé, ça veut dire qu'on peut encore changer cet âge pivot, cet âge d'équilibre ou pas ?
Mais ça veut dire que nous entamons une réforme en profondeur dont pour moi les enjeux sont plus importants que ça.
C'est important, hein ?
Oui, c'est important, mais
je vais essayer de vous expliquer simplement ce que
je veux faire. Ce que nous voulons faire. Moi, j'ai pris un engagement avec les Français. J'ai dit on doit refonder notre système de retraite. Et de manière simple. ce qui a été la force de la France, ce qu'on appelle le compromis de l'après-guerre de 1945, la solidarité entre les générations. En France, ce sont ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui sont retraités. Ça, on le maintient. Et on doit le chérir et le remplacer. Deux, ce système-là, on l'a progressivement transformé, abîmé et rendu injuste. Parce qu'on a créé une quarantaine de régimes. Parce qu'on a créé ce qu'on appelle les régimes spéciaux, des petites différences qui sont liées aux discussions sociales du passé. Et donc, c'est pas vraiment juste le système. Il y a des professions où on part à 50 ans, 55 ans.
Il y avait quand même un élément de justice.
Il y avait un élément de justice
c'était
à l'époque.
C'était le temps de cotisation, le nombre de trimestres.
Non, attendez.
À part pour les régimes
spéciaux. Non, c'est
spéciaux.
Pas vrai. Pas pour les régimes spéciaux. Non,
aujourd'hui,
non, non.
Celui qui commence à travailler
non,
à 18
non, non,
ans,
non, non, détrompez-vous.
Ou à 30 ans,
bah attendez, si vous voulez qu'on rentre dans le détail,
on
c'est
va pas
vrai.
Rentrer dans le détail, mais
il y avait des régimes spéciaux qui n'avaient plus cet âge de départ, qui est justifié parce qu'il y avait une pénibilité de ces métiers avant, mais qui a aussi beaucoup changé, qu'on n'a pas modernisé. Puis il y avait des vraies injustices entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Vous êtes fonctionnaire, votre retraite est calculée sur vos 6 derniers mois de revenus. Vous êtes salarié du privé, c'est sur vos 25 meilleures années. Donc on a créé plein d'injustices. Et au fond, notre système, il est devenu ce qu'on appelle corporatiste. C'est pas vrai qu'il est universel. Il y a plein de différences selon vos secteurs. C'est pas juste.
Et l'âge pivot, on s'y attendait pas. C'était pas annoncé.
Mais c'est parce que c'est pas décidé.
C'est pas décidé.
Non, ce que je voudrais faire. Donc j'ai demandé un travail à Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye a remis un rapport. C'est dans ce rapport qu'il parle de ça. Il en parle d'ailleurs en des termes plus choisis. Si on fait une réforme comme d'habitude, comme on fait depuis 20 ans, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste de faire ça? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors même que généralement quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômage des seniors, des plus âgés. Si on décale l'âge légal, on dit aux gens, restez plus longtemps au chômage. C'est pas correct. Par contre, on doit, c'est notre responsabilité, dire le régime qu'on est en train de créer, il doit être équilibré. Aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Le régime, il n'est plus équilibré. Et il ne le sera pas. On est en train de créer un nouveau régime universel où on va enlever toutes ces injustices après une très large négociation. Ce que je veux, pour le dire en des termes très simples, c'est qu'on fasse deux choses. Un, que notre régime, quand il rentre en vigueur en 2025, il soit équilibré financièrement. Et deux, que ce soit juste en termes de cotisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez dit vous-même un peu dans votre question. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, bah, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, bah, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste. Maintenant, en méthode, il a remis ce rapport. Le Premier ministre, la semaine prochaine, va commencer des consultations avec tous les partenaires sociaux. Et sur ce sujet de réforme, je veux qu'on incarne le changement de méthode que j'ai souhaité. C'est-à-dire qu'on va la construire tous ensemble, cette réforme. Personne n'a la bonne solution. Tous ensemble, ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement qui a tout seul la bonne réponse, mais on doit partager tous les contraintes. On veut que ce régime reste solidaire au sein de la nation française. On veut qu'il soit juste et on veut qu'il soit équilibré financièrement parce qu'il n'y a pas de finance magique, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et donc, il y aura une grande négociation. Et je le dis...
Une concertation.
Il y aura plus qu'une concertation. Je tiens au mot. Je tiens à un grand débat et on le décidera ensemble. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a certaines professions, si on faisait les choses mécaniquement, qui seraient lésées. Les enseignants, les aides-soignantes, les infirmières, tout particulièrement. Je cite ces trois-là. Il n'y aura pas de réforme des retraites tant qu'on n'aura pas ensemble bâti une vraie transformation de ces professions. Ça veut dire qu'on le fait ensemble et on bouge.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous me permettez juste un mot, oui. Madame Lapix, excusez-moi, parce que nous sommes à Biarritz.
Oui.
On a parlé de beaucoup de choses sur ce sommet et je vous remercie vraiment du temps et de la pédagogie. Je voulais dire juste deux choses. Je voulais dire d'abord à la ville de Biarritz, aux habitants, aux commerçants, à tous les vacanciers qui étaient là, un immense merci parce qu'on a créé. On a créé. Non, beaucoup étaient là, attendaient qu'on reparte, nous. Bon. Et donc, ils attendaient qu'on reparte. Je voulais leur dire un immense merci. Merci au Pays Basque qui vous est cher et qui nous a accueillis. Il y a une chose, je le dis parce que je n'y suis pour rien. On a formidablement réussi ce sommet grâce à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un maintien de l'ordre remarquable. Merci à toutes les forces de l'ordre. Parce qu'il y a eu une ville magnifique et accueillante. Tous les gens m'ont dit qu'ils reviendraient à Biarritz. Et on a eu une population qui a été chaleureuse. On indemnisera les commerçants qui ont eu à subir des pertes importantes. Je leur dis, on va mettre en place un mécanisme. Mais je peux vous dire que la France a rayonné et vous pouvez être fiers de Biarritz, du Pays Basque et de vous tous parce que c'est un formidable travail qui a été fait. Et je voulais dire aux Françaises et aux Français que pendant ces deux jours, en leur nom, j'ai essayé de faire le maximum. On continuera, c'est ce que j'essaie de faire depuis le début. On n'a pas tout réussi, mais je pense qu'on a fait œuvre utile pour nous, pour l'Europe et pour l'international.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République.
Merci à vous.
Milechker, en basque. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal météo.
Voilà donc cette interview du Président de la République par Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2. Xavier Couture, premier commentaire avec vous après la, on va dire, la diplomatie spectacle. Voici la pédagogie.
Alors là, je suis assez sidéré par le changement d'attitude, de posture, le changement fondamental dans la communication du président. Et c'est très bien, tant mieux. Alors, curieusement, ça se passe à un moment où il a réussi. C'est-à-dire qu'il pourrait être enflé par un G7 qui est quand même a été un peu un G2 plus 5. La réalité, c'est que on a entendu beaucoup Monsieur Trump, beaucoup Monsieur Macron, les autres un peu moins, d'autant qu'il y a un démissionnaire et un autre qui n'arrive pas à faire passer son Brexit. Bref, on voit bien, et une Madame Merkel qui n'est pas dans une grande...
Un 2 plus 5, donc, oui.
Moi, je dis G2 plus 5. Bon. Et donc, on a un Emmanuel Macron qui obtient des avancées, il l'a dit, avec beaucoup de pédagogie. Il aurait pu avoir la tête qui enfle. Et au contraire, il nous fait le Macron saison 2. C'est-à-dire... Je suis modeste, je suis pédagogue, je reviens sur chacun des arguments, sur chacune des actions. On va peut-être pas rentrer dans le détail, il a dû le dire au moins 3 ou 4 fois pendant l'interview d'Anne-Sophie Lapix, à qui évidemment on voyait le temps passer, et donc d'une interview fleuve, on avait une interview océan. Donc on s'est dit, on va... effectivement entrer dans tous les détails, mais ouais. Il est prêt à le faire. Je sens que cette dimension pédagogique, il y est maintenant attaché. Il comprend que c'est le moyen de reconquérir le cœur des Français.
On va écouter un ou deux extraits de cette interview, mais tout d'abord, on poursuit ce tour de table. Savaria Rojec, vous dites également ce soir... interview océan, comme vient de le souligner Xavier Couture.
Océan, peut-être pas, parce qu'il y a certains sujets, on en a parlé, qui ont été oubliés, notamment la nomination qu'on attend demain du commissaire européen. Mais effectivement, grande pédagogie, c'est aussi... On le voyait, en fait, depuis le début de ce sommet, depuis samedi. Il a commencé samedi avec cette intervention face caméra qui était très pédagogique, très dans la proximité aux Français. Et il a poursuivi. Je suis d'accord que on aurait pu s'attendre à un peu plus, effectivement, de satisfaction après de telles avancées, notamment sur le dossier iranien. J'imagine qu'on va en parler. Mais il a poursuivi dans sa proximité.
Il y a un ton à la modestie également. Il y a une nouvelle attitude en direction des Français.
C'est aussi une conséquence de la crise des gilets jaunes, c'est-à-dire on est dans la proximité, on est dans la pédagogie, on explique aux Français. Je vous rendrai des comptes. C'est ce qu'il a dit également samedi lors de son intervention. Je vous rendrai des comptes. Et c'est ce qu'il a fait cet après-midi en conférence de presse. Est-ce qu'il a refait ce soir en interview?
Alors, Caroline de Camaret, oui, allez-y.
Un président peut en cacher un autre, décidément, mais je ne le dirai pas dans le même sens que vous, je le dirai même au long de la journée. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une mue assez formidable. Il était à côté de Donald Trump, où il a répété 12 merci. Merci donc à ce grand Américain. Je crois qu'il a jamais, un président américain n'a été autant
avec
remercié.
Avec une très longue poignée de main également.
Le body language était vraiment très, très proche. On a bien expliqué que... D'ailleurs, Donald Trump avait trouvé ces deux jours et demi formidables, d'une grande unité. Et même The Times est en train de soupçonner Emmanuel Macron d'avoir travaillé chacun de ses invités selon les méthodes du FBI, en établissant un profil psychologique, en s'adressant à eux un petit peu comme des gens qui ont besoin d'un soutien psychologique permanent pour obtenir alors des grandes avancées. On verra quand même à l'usage si la grande avancée d'une prochaine rencontre entre Rouhani, le président iranien et le président américain a bien lieu. Il faut attendre aussi les lendemains qui déchantent avant de mesurer les exploits de M. Macron
sur la côte basque. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule rencontre avec Emmanuel Macron, mais c'est avec le chef Raoni, donc ça n'a rien à voir. Jean-Jérôme Bertolus, quel est ce nouveau ton d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que cet exercice-là parle aux Français?
C'est l'acte 2 du quinquennat. Il l'a dit, on va dire, il fait ce qu'il dit, au moins Emmanuel Macron, sur ce point de, stratégie politique. Oui, c'est-à-dire, d'abord, comme l'a dit Xavier Couture, une grande humilité. Même, il y a quand même une avancée sur l'Iran. C'est un dossier qui empoisonne la communauté internationale depuis plusieurs années. Il y a indéniablement une avancée. Il parle d'une grande fragilité. Et d'autre part, oui, Il veut associer les Français. Il l'a démontré samedi dans son allocution de 10 minutes. Je parle en votre nom. Je négocie en votre nom. Il l'a répété 6 fois. J'ai compté 6 fois. Eh ben, c'est ce qu'il a fait de nouveau avec Anne-Sophie Lapy. Et puis, d'un mot, et puis il l'a dit sur les retraites. Rien n'est décidé, y compris l'âge pivot.
Ça reste ouvert.
Il va lancer une grande concertation. Les Français vont être associés.
Mais il faut alors le croire, après, quand
il faudra juger.
Il faut
justement,
ça,
non mais, enfin, je ne sais pas s'il faut le croire ou pas le croire. On jugera sur les actes. Mais en tout cas, dans sa stratégie politique, voilà, il fait du G7 un objet politique presque du quotidien, de son acte 2.
Mais est-ce que rien n'est décidé au G7 Caroline lui-même, quand même? On peut se poser la question aussi plus globalement sur les résultats effectifs de ces 2 jours. Ce qui est décidé, effectivement, c'est une aide de 20 milliards de dollars.
Millions.
On est dans les petits chiffres. 20 millions de dollars. Alors justement, on parle en dollars au G7. Ça, c'est aussi cette... On va jusqu'à tâter du billet vert pour la forêt amazonienne. Ça, c'est peut-être une victoire personnelle de Monsieur Macron sur un certain Jair Bolsonaro qui effectivement n'a pas eu que des délicatesses à son encontre et celui de sa femme probablement. Mais
ne boudons pas notre plaisir. Sur l'affaire iranienne, on est sur une poudrière. Ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz est d'un danger absolu. Le réarmement possible d'un Iran qui serait hors contrôle politique deviendrait tragique. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Iran, dans la souffrance économique qui est la sienne, la souffrance sociale, peut dériver du jour au lendemain. Le premier petit pas qui consiste, on sait bien que Rouhani ne viendra voir Trump ou Trump ne pourra voir Rouhani, que si Rafsanjani est d'accord, on sait très bien que tout ça est très compliqué.
Ce sera au crédit de la France, ça.
Mais
Emmanuel
Macron a fait un coup. C'est un coup phénoménal. Enfin, il faut savoir quand même que Trump est accompagné de son gendre qui s'appelle Yared et qui n'est pas très favorable à une réconciliation avec l'Iran. Il a réussi un coup exceptionnel d'inviter le ministre des Affaires étrangères. Alors, c'était Rouhani qui devait venir. Il n'a pas réussi à faire venir Rouhani. Mais enfin, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui vient à Biarritz, qui discute avec Emmanuel Macron, le tout à 3,50 mètres de la chambre de Donald Trump, qui est au courant et qui l'accepte. C'est quand même assez extraordinaire. On peut pas bouder notre plaisir. C'est mieux d'imaginer que l'Iran ne saute pas.
20h50 sur France Info. Nous marquons une pause avec le rappel de l'info. Et vous, Léo Téchère?
C'est le rôle de la France de tenter des médiations. Emmanuel Macron se félicite ce soir sur France 2 et France Info. Le G7 fait baisser la pression entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump serait prêt à rencontrer le président Rouhani et discuter d'un nouvel accord nucléaire. Emmanuel Macron, qui est également revenu sur sa récente remarque sur les gilets jaunes blessés, des violences inacceptables, disait-il. Il promet cette fois une réflexion profonde sur le maintien de l'ordre. Mais selon lui, le pire a été évité. Pas de tués par les policiers. Les incendies continuent de progresser ce soir en Amazonie. Pompiers et militaires brésiliens impuissants face à plus de 1000 nouveaux départs de feux de forêt. Les pays du G7 débloquent 20 millions de dollars pour éteindre les flammes. Qui sera le prochain représentant de la France à la Commission européenne? Emmanuel Macron annoncera son choix demain matin. Le nom de Florence Parly, la ministre des Armées, circule avec insistance. Et puis l'OGC Nice, officiellement racheté par Ineos. Après son équipe de vélo, le pétrochimiste britannique devient propriétaire d'un club de football. Transaction validée par l'autorité française de la concurrence.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, après cette longue, longue interview présidentielle aux 20h de France 2, nous allons écouter un extrait sur ce que le chef de l'État a dit à propos des attaques, pour ne pas dire presque des insultes, de Monsieur Jair Bolsonaro.
Je considère que le mandat que m'ont donné les Français, c'est de les représenter, de défendre notre pays, d'essayer de faire au mieux pour qu'ils progressent et de porter la voix de la France dans le monde. Je me dois d'être respectueux à l'égard de mes homologues, quels qu'ils soient. Et donc jamais je n'ai tenu un propos qui était irrévérencieux à l'égard d'un de mes homologues. Il n'en est pas de même de la part du président Bolsonaro, je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai évidemment condamné et regretté, on ne peut pas l'accepter. Et donc, moi je distingue toujours les peuples des dirigeants. Le peuple brésilien est un grand peuple, le Brésil est un grand pays. L'attitude qu'il a eue, que vous avez rappelée, à l'égard de mon épouse, l'attitude qu'il a eue à l'égard du ministre des Affaires étrangères il y a quelques semaines, ne sont pas dignes.
En refusant un rendez-vous, enfin en prétextant.
Ne sont simplement pas dignes d'un dirigeant.
Caroline de Camaret, c'est une crise diplomatique?
Il y a eu en tout cas effectivement un début de crise diplomatique et d'ailleurs Bolsonaro malgré l'habitude qu'il a donné à son peuple des provocations, si on regarde les derniers sondages, il est quand même plutôt en train de chuter à l'occasion de ces incendies, à l'occasion de ces échanges. Il a chuté aujourd'hui de 39% d'approbation à 29%. Donc on voit bien qu'il est aussi en chute libre et que les tweets, la logique des tweets dans lesquels il était finalement
oui,
partisan.
Tweet lui aussi, oui, effectivement.
Oui, partisan de l'idée d'une néocolonialisation aussi, par le fait qu'on donne des aides à cette forêt amazonienne, on pratiquerait le néocolonialisme, alors qu'Emmanuel Macron a bien précisé qu'il s'agissait en fait d'un bien commun, en quelque sorte, c'était le poumon de la planète, et que ça entrait finalement dans la catégorie des biens communs, et ça je crois qu'il l'a, il l'a bien explicité. Alors ça, c'était, c'est vraiment intéressant de voir que eh bien, la réflexion à la fois des Brésiliens et puis du monde entier a évolué.
Ça va y arranger, qu'est-ce qu'au fond, de façon un peu extravagante, M. Bolsonaro ne rend pas service à Emmanuel Macron en lançant ses noms d'oiseaux et en le transformant en président, on va dire, démocrate face aux populistes.
Mais c'est vrai que ça permet cette passe d'armes qui est assez inédite, il faut le dire. Elle permet à Emmanuel Macron d'endosser un dossier qu'il aimait bien et qu'il avait pris au début du quinquennat, qui est celui de champion de la planète. C'est-à-dire que depuis la semaine dernière, depuis ses déclarations, nous sommes tous des Amazoniens, notre terre brûle. Voilà, il réendosse ce dossier, ce costume de champion de la planète qu'il avait un peu oublié. Au-delà de ça, Bolsonaro, vous avez raison Caroline, il nous décrit comme des néocolonialistes, il déclare que le feu le plus brûlant c'est celui qui menace la souveraineté du Brésil. Et le problème aujourd'hui, pour parler très concrètement des feux en Amazonie, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui d'aider le Brésil et d'aider l'Amazonie si le Brésil ne coopère pas et ne souhaite pas coopérer avec la communauté internationale. Ouais. C'est ça, en fait, concrètement, le problème.
Alors, Jérôme Bertolus.
Oui, c'est clair que les outrances de Jair Bolsonaro peuvent servir Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron compte sur l'isolement diplomatique du président brésilien. En tout cas, il n'a pas reçu un quelconque signal, le président brésilien, de Donald Trump, qui pourtant était assez proche de lui depuis son élection en octobre. Et puis surtout, ça permet à Emmanuel Macron d'aller vite, je veux dire, d'aller très, très vite sur la question de l'environnement. Vendredi, il place l'Amazonie au centre du G7. Et aujourd'hui, il nous dit quoi? Il nous dit la France a une part de complicité dans la déforestation à propos des importations du soja. Ce que les ONG, pendant tout le week-end, ont martelé. Donc le président entend, le président répond. Bien sûr, il sera toujours jugé sur les actes. Hein, mais en termes de phrasé politique, il va quand même extrêmement vite. Il a mis au centre de l'acte 2 du quinquennat les questions environnementales. Bien sûr, il y a eu les européennes qui sont passées par là. Et sur ce point, effectivement, eh bien, on va dire qu'il tient son cap.
Et le Mercosur.
Il a quand même cet avantage qui est un peu paradoxal, qui est à la fois d'avoir une posture très environnementale et en même temps, grâce à cette, je dirais, à ces excès de Bolsonaro, qui fait que l'opinion française est forcément derrière son président, qu'on le veuille ou non, on peut pas attaquer comme ça, et faire de la pipolisation épouvantable, ce qu'a fait Bolsonaro, et ce qui le met hors jeu. Mais en dehors de ça, il y a les incendies, effectivement, en Amazon, le fait que Bolsonaro ne tient pas la parole qu'il avait tenue sur, effectivement, la déforestation, sur la construction de cette centrale nucléaire au centre de l'Amazonie, etc., etc., qui permet de rompre avec le Mercosur. Alors, curieusement, ça met les agriculteurs français, qui ne sont pas les plus grands défenseurs de l'environnement, ça les met quand même de très bonne humeur.
C'est un nouvel,
en plus, ce
c'est
soir,
un nouvel
il nous annonce quoi temps, oui. Il nous annonce que non seulement il rompt avec le Mercosur, ce qui va faire évidemment plaisir aux agriculteurs, mais qu'en plus, il veut qu'on reprenne notre indépendance protéinique, c'est ce que j'ai entendu. Donc là aussi, ça va donner aux agriculteurs français l'idée qu'on va peut-être leur donner des terres à cultiver avec du soja.
Ça va y arranger. Mot de la fin, hein, mot de la fin, pardonnez-moi. Arrière-pensée électorale tout de même, nous sommes aux prémices de la campagne des municipales.
On fait la politique et il y a la bataille des municipales à venir qui se rapproche de plus en plus. C'est vrai qu'en mettant dans la balance effectivement la ratification ou non du Mercosur, on rassure à la fois les agriculteurs, les écologistes, mais aussi une partie de sa majorité. Il faut se souvenir qu'il y avait 70 députés En Marche qui avaient exprimé de grandes réserves sur ce traité. Donc, Emmanuel Macron a sans doute ça en tête. Voter, voilà.
Tout simplement à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est beau. Un peu opération sauvetage par rapport à un CETA qui n'est pas du tout passé comme une lettre à la poste déjà précédemment avec le Canada.
Merci.
Et aujourd'hui, on sait une bonne occasion de se débarrasser.
Allez, opération sauvetage. Peut-être. Merci à vous, Caroline de Camaret. Merci, Saveria Rojec, Xavier Couture et Jean-Jérôme Bertolus pour ses premières réactions à cette interview présidentielle et la clôture de ce G7. Merci à vous pour ces informés. Édition spéciale. On se retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition.